Donc bonjour, je m'appelle Danica Perrault, je suis architecte et responsable d'un pôle patrimoine bâti, paysage et urbanisme au parc naturel régional de la Brenne. Donc les parcs naturels régionaux sont des collectivités qui ont pour mission de préserver les patrimoines naturels, culturels, paysagers de leur territoire. Et nous, nous sommes 51 communes dans ce parc naturel régional, situé dans la Brenne, si vous connaissez, qui est une région d'étang, plus connue pour son patrimoine naturel que pour son patrimoine bâti. Et pourtant, son patrimoine bâti est extrêmement intéressant par son ancienneté, par sa qualité constructive. Donc, un parc, c'est régi par une charte qui définit ses missions pour maintenant 15 ans, pardon. C'était 7 ans, puis 10 ans, puis 12 ans, puis 15 ans, parce que c'est très lourd à mettre en place. Et donc, on se donne un petit peu plus de temps. Et puis, un parc, c'est également un agenda 21 local. Donc, pour le sujet qui nous concerne, donc, notre charte prévoit de préserver et valoriser le patrimoine bâti, ça c'est la base, d'intégrer la participation à la lutte contre le changement climatique et anticiper ses conséquences pour le territoire, développer l'éco-bâti, puisqu'on est dans des valeurs de développement durable, et puis on a fait un lien fort entre la santé et l'habitat, puisque le parc porte des opérations d'amélioration de l'habitat depuis 2000, en fait, et donc a eu affaire à la résorption, beaucoup de travaux sur la résorption de l'insalubrité liée à l'ancienneté du bâti, et puis à des pratiques hyper rurales aussi, d'occupation des logements. Pour nous, la conservation du patrimoine doit être dynamique, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas comme mis sous cloche, même si quelquefois cela le mériterait. Mais l'essentiel de notre patrimoine, c'est du bâti occupé. Ce sont des logements, ce sont des bâtiments agricoles. Et donc, on pense qu'il faut le préserver en lui permettant d'évoluer. Et donc, réhabiliter, c'est préserver ce patrimoine si on veut bien s'en donner les moyens. Mais c'est aussi pour nous recycler un parc de logements, puisque il est extrêmement important aujourd'hui de réhabiliter le bâti ancien plutôt que de construire du bâtiment neuf pour éviter d'étendre sans arrêt l'urbanisation, d'imperméabiliser de nouvelles terres, de grignoter sur l'espace environnemental et agricole. Donc, les trois quarts des bâtiments du parc sont du bâti ancien chez nous, puisque la médiane de construction s'établit en 1892, alors que la moyenne en France, c'est 1969. Donc ça donne complètement... effectivement, en France, on doit se préoccuper de la partie dont parlait André Lidvac tout à l'heure, des 30 glorieuses. Chez nous, finalement, ça ne représente pas la majorité du bâti. La majorité du bâti, c'est du bâti ancien. Et les élus s'en préoccupent avec des inscriptions sur des objectifs de réhabilitation du bâti dans le SCOT, dans les documents d'urbanisme du territoire. Donc, réhabiliter le bâti ancien, ça veut dire de privilégier les matériaux locaux, géosourcés et biosourcés, les matériaux traditionnels, techniques traditionnelles, et puis de nouvelles techniques pour intégrer l'amélioration thermique de ces bâtiments qui est nécessaire aujourd'hui. Les circuits courts et puis essayer d'intégrer également les énergies renouvelables. Donc le grand principe, André Lidvac en a parlé, de réhabilitation, c'est dans le bâti ancien, c'est le maintien des transferts de vapeur d'eau dans les parois, absolument essentiel pour éviter de nombreux désordres. On a commencé par là en évitant le ciment, en privilégiant la chaux, et puis aujourd'hui, on s'est posé le problème de comment faire pour améliorer efficacement ces bâtiments sur le plan thermique tout en maintenant ces qualités hygrothermiques. Et donc, on a engagé, alors on parlait de temps long tout à l'heure, on a engagé il y a 7 ans maintenant un projet patrimoine basse consommation qui est une expérimentation grandeur nature sur un certain nombre de bâtiments que les collectivités ont mis à notre disposition, enfin, si on peut dire, dans la mesure où elles avaient des travaux pour réaliser des logements. Elles ont accepté de jouer le jeu de l'expérience, de réalisation de travaux d'amélioration thermique adaptés, donc à un bâti ancien, alors qui chez nous est en terre-pierre. En Alsace, il y a beaucoup de pans de bois, mais c'est aussi la terre. Et en respectant, ça c'était essentiel pour nous, la santé des bâtiments et par là même la santé des occupants de ces bâtiments. Donc le projet, c'était de mesurer l'efficacité thermique des bâtiments après travaux et puis ensuite de promouvoir des solutions adaptées par type de bâtiment. Donc la méthodologie, c'était de réaliser un diagnostic patrimonial et une étude approfondie, donc une simulation thermique dynamique pour les bureaux d'études énergie qui sont dans la salle, la préconisation de travaux d'éco-réhabilitation à base de matériaux biosourcés, des formations sur l'étanchéité à l'air et des tests d'étanchéité à l'air pendant les travaux, puisque c'était un des objectifs finalement les plus difficiles à atteindre et les plus, qui apparaissent les plus contradictoires aussi, parce que maintien des transferts de vapeur d'eau, on dit qu'il faut qu'un bâtiment respire, mais il ne faut pas que l'air passe. Donc c'est un peu intuitivement difficile à associer. Et puis ensuite, une instrumentation après travaux avec la mesure des progrès de consommation, donc instrumentation pendant 2 ans sur la consommation, l'hygrométrie. Et puis sur le bâtiment que je vais vous présenter, on a fait également une mesure de la qualité de l'air intérieur après travaux et 1 an après. Et puis une enquête de confort auprès des locataires, parce que ça nous paraissait aussi important finalement que les mesures qu'on prenait sur le bâtiment. Donc bon, les enjeux principaux, comme partout, une bonne étanchéité à l'air, une bonne ventilation, mais le transfert de la vapeur d'eau dans les parois et puis une réhabilitation qui se devait pour nous d'être patrimoniale. Au bout de ces 7 ans, on a pu travailler sur 4 bâtiments, 9 logements en tout, qui ont été réhabilités en testant plusieurs techniques, plusieurs types d'isolants biosourcés. Et puis 2 techniques de mise en œuvre principales. Nous, c'était sur les murs surtout que portaient nos interrogations, avec des enduits. On voulait tester surtout les enduits isolants en correction thermique. Donc on a appelé Slow Tech par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la technologie qui s'invite fortement dans ces bâtiments. On a essayé de travailler avec des techniques qui peuvent être finalement mises en œuvre par aussi en auto-réhabilitation, puisqu'on a un territoire où les gens sont relativement modestes. On a 60% des gens qui sont non imposables, donc il faut aussi des travaux qui puissent pas coûter trop cher. Et puis l'isolation plaquée, je dirais traditionnelle, avec je ne sais pas si c'est traditionnel à ce niveau-là, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en fait, avec l'étanchéité à l'air et puis des isolants biosourcés. Donc pour les murs, voyez, technique en amélioration. Enfin, on a essayé surtout le chaud-chanvre en amélioration thermique, donc soit à la main, soit projeté à la machine. Et puis isolation plaquée, isolant biosourcé, plus film hygrovariable, plus ferme à sel. Et puis, si on peut arriver à maîtriser le chantier suffisamment, plutôt ossature bois que ossature métallique. Là, il y a eu un petit bug. Donc, je vous présente la 3e expérience de ce projet. C'est celle sur laquelle on a pu aller le plus loin, parce que tous les bâtiments sont des logements collectifs, sauf celui-ci qui est une maison individuelle, une petite longère et qui représente le type le plus fréquent de l'architecture rurale dans le parc. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir transposer les solutions qu'on allait proposer là pour l'ensemble des habitants du territoire, si ça les intéressait bien sûr. Donc ce projet a eu une petite mention au Green Solution Awards, alors on est fiers, alors on le dit, voilà. Et donc, c'est un projet qui n'aurait certainement pas vu le jour parce que cette maison était en extrêmement mauvais état, comme vous pouvez le voir ici. Mais elle était située dans un environnement patrimonial en cœur de bourg, avec une église classée, une mairie et une école labellisée patrimoine du XXe siècle. Elle fermait une place. Tout cela a fait que la commune tenait beaucoup à la réhabiliter. Et puis aussi, On a eu la chance de bénéficier d'un programme TEPCV, Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte, ce qui nous a permis d'avoir des arguments financiers également pour convaincre les élus de nous aider dans notre expérience, on va dire. Voilà le parti pris des travaux. Donc, enduit chaux-chanvre projeté à la machine pour... pour avoir un chantier moins humide et donc un séchage plus rapide. Par contre, on est allé loin puisqu'on a fait une dalle en béton de chaux-chanvre au sol. En général, on n'en fait pas en rez-de-chaussée par rapport au risque de remontée d'humidité, mais là, on était dans un contexte très sain, on se l'est permis. Isolation des combles en bottes de paille. Et puis un chauffage poêle à granulés, un petit rendement, et un chauffe-eau thermodynamique avec prise d'air dans les combles. Et puis comme ventilation, comme on voulait un système relativement accessible à tous, une ventilation simple flux, même si on sait que double flux, on aurait de meilleurs résultats. Donc l'étude thermique avant travaux, alors je pense que c'est exagéré, notamment par rapport à tout le projet battant auquel vous faisiez référence, c'est 489 kWh par mètre carré par an, mais évidemment on était sur un bâtiment en mauvais état, très ouvert, donc à tous les vents, et puis les résultats à l'arrivée, on est à 56 kWh par mètre carré par an, alors corrigé, c'est-à-dire comme on a un poêle bois, on a un coefficient de 0,6 qui s'applique, mais sur pratiquement tous les logements sur lesquels on a travaillé, on est autour de 80 kWh par mètre carré par an, donc dans les critères du BBC basse consommation. Donc je passe rapidement les travaux, la dalle chaux-chanvre, la projection des enduits chaux-chanvre à la machine avec les finitions. L'isolation des combles en bottes de paille. Là, une difficulté, par exemple, c'est d'obtenir les bonnes densités sur les bottes de paille, parce que ça paraît assez rustique d'isoler en bottes de paille, mais ça demande quand même des petits réglages et des vérifications que l'artisan, là, n'avait pas faites. On a des bottes de paille qui ne sont pas forcément très denses. Donc un peu d'isolation scotch-tech quand même sur une partie qui a été isolée dans la grange en agrandissement, qui a été donc faite en ossature bois, laine de bois. Et puis l'instrumentation avec des poses de sonde hygrométrique thermique pour les deux ans de mesure. Et puis des sondes qu'on a posées à l'interface entre le mur et l'enduit chaux-chanvre, pour essayer de voir ce qui se passe effectivement à ce niveau-là, puisqu'on a un enduit chaux-chanvre relativement épais, et voir si on n'a pas de risque de condensation entre l'enduit et le mur, puisqu'on avance le point de rosée en fait. Et une mesure de la qualité de l'air intérieur. De très bons résultats d'étanchéité à l'air, parce que avec les enduits chaux-chanvre, on privilégie une étanchéité mécanique. Donc effectivement, tous les trous sont bouchés, maîtrisés, et on est à 0,55 sur le logement global. Et sur la partie chaux-chanvre, on est à 0,49. Donc on est vraiment dans les valeurs d'un neuf bien réalisé, d'un logement neuf bien réalisé. Alors les éléments de suivi, donc le logement il est occupé depuis à peine un an, donc il y a eu une année de mesure mais on n'a pas les résultats encore analysés. Ceci dit, dans le cadre de la mesure de qualité de l'air intérieur, il y a eu cette mesure de température hygrométrique qui montre, là le logement était non occupé, la stabilité des températures, c'est la grosse qualité de ces réhabilitations thermiques sur du bâti ancien, on a vraiment des stabilités thermiques énormes. Pardon. Sur les mesures de la qualité de l'air, je le colle. Donc c'est pas ma spécialité, hein. J'ai pas de master qualité de l'air, moi je suis en première année seulement, donc je vais vous donner les résultats tels quels. On a travaillé avec Suzanne Déhou là-dessus, qui nous a bien guidés avec Medieco. sur les mesures de la qualité de l'air. Et là, vous avez la comparaison entre ce qui a été fait en 2018 à réception, où il y avait notamment des valeurs d'acétaldéhyde, d'hexanal qui étaient un peu élevées, mais en dessous des valeurs, je dirais, réglementaires. Concentration en terpènes de la même façon élevée, ça paraît sur un graphique comme ça fort, mais pour autant, elles sont également en dessous des concentrations. Et ces valeurs sont liées à l'utilisation de produits à solvants lors des finitions. De l'huile cire pour les poutres, de la peinture solvantée par une erreur de mise en œuvre, en fait. Le peintre devait mettre de la peinture en qualité A+. Et puis, comme il avait les menuiseries extérieures à peindre aussi et que c'était la même couleur, il s'est dit « Oh !» Voilà. Et donc, en voyant le pot de peinture sur le site, on s'est rendu compte qu'il avait mis une peinture à solvant à l'intérieur aussi, ce qui nous a un peu foutu en l'air notre mesure. Mais bon, c'est passé au fil du temps. Et puis en COV Toto, voilà, ils étaient un peu plus élevés après le chantier. Ils ont baissé, mais ils sont toujours relativement élevés. Ça, je ne m'explique pas pourquoi, parce que les COV mesurés individuellement sont tous de valeurs très faibles. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. Pour autant, on est toujours en dessous des valeurs des recommandations de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement. Le petit problème qu'on a eu, c'est sur les moisissures. Alors, quand j'ai vu les photos présentées tout à l'heure, je me suis dit, mais finalement, nous, c'est peanuts, parce que ça représentait 3 feuilles A4 dans une partie où il n'y avait pas d'aération. Pendant le chantier, donc on a fait la dalle chaux-chanvre, les enduits chaux-chanvre, l'isolation en paille posée sur fermacelle et le menuisier qui ne devait pas poser ses fenêtres avant un mois a posé ses fenêtres parce que c'était, on en parlait tout à l'heure, c'était juste avant les vacances, il a voulu les poser avant les vacances, les fenêtres ont été fermées. Donc même s'il y a eu des ouvertures régulièrement par le maire pendant le mois d'août, c'était pas autant que ça aurait dû être, on n'était pas en surventilation, donc il y a eu un petit peu de moisissure avec donc essentiellement du pénicillium, et vous voyez, un an après, c'est fortement descendu. Par contre, ça a été nettoyé, mais peut-être pas, enfin, il y a eu dispersion des spores sans doute, et il y a toujours des valeurs de moisissure qui sont présentes dans l'air, donc c'est vrai que pour 3 feuilles A4, on se dit, c'est quand même dommage, parce que les mesures ne pardonnent pas, quoi. Pour autant, voilà, on est arrivé aujourd'hui avec des valeurs. On est en vert partout, sauf sur les moisissures où il y a ce petit bug. Sachant qu'on a aussi eu des problèmes avec l'électricien qui posait les gaines. On l'a vu aussi ce matin et qui a refusé. Pendant un an et demi de poser des gaines semi-rigides en disant que les gaines souples c'était très bien et que ça allait bien. On les a vidées 2 fois pendant le chantier à mise en occupation, et quand on a fait la mesure de qualité de l'air intérieur, en fait elles ne fonctionnaient pas, et donc la locataire disait c'est peut-être pour ça que j'ai plein de vapeur quand je me douche dans ma salle de bain. Et donc, on avait une hygrométrie élevée. Malgré tout, les mesures n'étaient pas trop mauvaises. Donc, après ça, le maire a fait le forcing et derrière, l'électricien a accepté de poser des gaines semi-rigides. Voilà, bon, à vérifier encore si ça fonctionne. Donc, une petite synthèse sur l'étanchéité à l'air sur les 4 bâtiments, puisque c'était vraiment là-dessus qu'on a essayé de mettre l'accent au fil des réhabilitations, avec le premier où il n'y en avait pas du tout, la problématique n'a pas été prise en compte, ça se voit. Le deuxième bâtiment, où on avait une valeur de 0,9 sur un bâtiment en isolation plaquée, une valeur de 1,55 sur le logement qui était enduit, mais sans, comment dire, il y avait au niveau du plancher, il y a eu de la ouate de cellulose qui a été déversée, mais sans film d'étanchéité à l'air, sans traitement de l'étanchéité à l'air, donc ça explique la valeur un peu élevée. Et puis sur la longère que je vous montrais, là on est à 0,55, donc on est très bon. Et sur le dernier bâtiment, qui est une école de 1900, logement d'école de 1938, on est à 0,9 test intermédiaire et 0,69 test final, ce qui est pas mal, sachant qu'on n'a pas pu traiter les planchers intermédiaires du tout. Donc on considère que c'est satisfaisant. Voilà, donc les points de vigilance, bon, on les a abordés ce matin. Dans un bâti ancien, c'est vraiment la gestion de l'eau. Donc, essayer de conserver tous les éléments qui font qu'on peut gérer l'eau, les débords de couverture, les coyaux, comme on dit ici, des zones de pied de mur perméables, éventuellement des drains qui ne descendent pas au-dessous des fondations, quand on fait des dalles, des hérissons ventilés, enfin, etc., pour permettre à l'eau de circuler sous toutes ses formes. C'est vraiment le leitmotiv du bâti ancien, et puis bien sûr de la ventilation, puisque l'usage actuel du bâtiment fait qu'on produit beaucoup plus de vapeur d'eau qu'on en produisait auparavant. J'ai quasiment bouclé. Hein. Donc les gaines, vous voyez les gaines pendant notre chantier, c'était un peu serpentine, on va dire, ce qui explique les problèmes qu'on a eus. Et puis tout à l'heure, ça c'est sur un autre chantier, un des premiers, où c'est une ventilation double flux, et le bâtiment a mis un certain temps à être mis en location après la fin des travaux, et en fait personne n'a nettoyé les gaines avant qu'on vienne visiter les logements pour mettre en place l'instrumentation. Donc c'est vraiment dommage. Et puis les finitions, la preuve, peinture. Pourtant, c'est bien noté, hein. Extérieur, 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 mais elle a été posée à l'intérieur du logement. Pour autant, on est quand même assez satisfait de cette expérience patrimoine basse conso, parce que finalement, on considère que c'est aussi, aujourd'hui où ça devient très important, un projet qui peut être qualifié de bas carbone, puisque sur la maison de Luré, on est à 20,5 tonnes de CO2 stockées, avec la quantité de matériaux biosourcés qui ont été mis en œuvre. Il produit le bâtiment 3 kg de CO2 par mètre carré par an, ce qui fait pour par an 203 kg de CO2, et ce qui le rend neutre dans son émission pour les 100 années à venir. Voilà, donc pour nous, ça démontre bien l'intérêt de ce type de réhabilitation. La poursuite, c'est qu'on va promouvoir sur notre territoire ces solutions. On l'a déjà fait, hein, dans le cadre du programme TEPCV, nos collectivités ont été... les subventions pour les travaux d'isolation ont été conditionnées à l'utilisation de matériaux biosourcés. Et puis, on va créer une maison de la rénovation, donc qui est une plateforme de rénovation énergétique, appuyé sur le dispositif d'Orémy, mais prenant en compte les spécificités du bâti ancien de notre territoire et la santé des habitants. On en parlait avec un participant tout à l'heure. Donc, mettre en œuvre, peut-être sur les rénovations performantes, pourquoi pas, à nouveau, des mesures tests de qualité de l'air intérieur. Et puis également, et ça fera le lien avec l'intervention suivante, un travail également de sensibilisation auprès des habitants sur l'utilisation des logements ensuite, et puis sur les produits à utiliser, parce que dans les mesures de qualité de l'air intérieur qu'on a fait après travaux, il y a des COV qui sont apparus, qui n'étaient pas là auparavant, et qui sont des limonènes, des COV essentiellement dus à des produits d'entretien qu'on utilise tous régulièrement. Et puis un autre point, c'est de favoriser la montée en compétence des artisans du bâtiment. Bon, ça, avec la plateforme, c'est la base. Et nous, on a participé à un projet régional qui s'appelle le Rebat Bio, dans le cadre du programme PACTE, avec des outils de communication sur ces modes de réhabilitation et que vous pouvez visualiser sur Internet, notamment les vidéos pédagogiques qui montrent différentes techniques de mise en œuvre de matériaux biosourcés, puis des mallettes aussi pour sensibiliser tous les acteurs du territoire à ces questions, mallettes isolantes et mallettes performance. Et puis un groupe EcoBat, donc un groupe d'artisans et d'architectes qui développe l'éco-construction solidaire sur notre territoire associé à une association d'insertion. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, donc peut-être quelques points qui nous ont accompagnés. La venue de Suzanne Déhou lors d'une journée sur l'habitat et la santé en 2017. Et puis, dans le cadre du pacte, donc des kakémonos qui sont réalisés pour les artisans du bâtiment, pour le grand public, pour montrer les techniques qui ont été mises en œuvre aussi lors de petits salons ou autres. Et puis, le petit cahier de recommandations qu'on a réalisé avec le CEREMA dans le cadre du plan de développement régional durable et que vous avez dans les documents qui vous ont été remis par Mathilde.